Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 9 octobre 2010. Trois thèmes sont au menu du débat de ce soir, à savoir examen à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Puis nous nous rendrons dans la province du Bas-Congo pour parler de l'expulsion des Congolais de l'Angola. Vous avez compris qu'il s'agit là de notre deuxième thème de ce soir. Et enfin, dans notre dernier thème, nous parlerons de l'adoption par l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu du rapport de la Commission de contrôle du budget 2008-2009 sur la mégestion par l'exécutif provincial, demandant ainsi sa démission. Trois confrères sont avec moi dans ce studio pour le débat. Il s'agit de Benoît Kambéré, il est journaliste au journal Écho des Grands Lacs, un journal qui paraît à Kinshasa, distribué à Kinshasa et à l'est de la RDC. Mangenda Chibangu Machi, il est rédacteur en chef adjoint à l'Agence congolaise de presse et collaborateur au journal Le Potentiel. Et Albert Mafolo, journaliste à la radio catholique Tomisa du diocèse de Kikwit. Il intervient à partir de la province du Bandundu. Avant d'entrer dans le vif du débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment ces trois thèmes retenus pour vous ce soir ont été traités. La revue de presse avec Samuel Kachak.
Bonsoir. La presse parue cette semaine à Kinshasa a entre autres fixé ses projecteurs sur l'examen du projet de loi relatif à la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Potentiel déclare que c'est maintenant ou jamais le moment de battre le fer. Pour ce journal, il s'agit d'une question de volonté politique de doter réellement la RDC d'une armée nationale républicaine, dissuasive et performante. La tempête des tropiques de son côté indique que la RDC s'inspire du plan des Le Sec et accepte une réforme étalée sur 10 ans. Autre sujet de la semaine, les expulsions des Congolais de l'Angola. Le Phare parle d'une montée des tensions entre la RDC et l'Angola et à ce journal de se demander que veut Luanda en ordonnant la fermeture de leurs frontières pour empêcher leurs ressortissants de rentrer chez eux. Devant cette situation, le climat tempéré voit le risque d'affrontement entre l'Angola et la République démocratique du Congo, car il ne s'agit plus d'une réciprocité, mais plutôt de vengeance et représailles entre les ressortissants des deux pays. Terminons cette revue de la presse au Nord Kivu avec la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale chargée d'exécution du budget 2008-2009 qui a exigé la démission du gouvernement provincial pour mauvaise gestion. Criant au scandale financier au Nord Kivu, l'observateur pense que Julien Paluku est sur une chaise éjectable.
Merci Samuel Kachak pour ce journal des journaux. Benoît Kambéré, journaliste au journal Écho des Grands Lacs. Votre analyse par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Ben, apprendre.
Juste un petit commentaire. Hein.
Juste apprendre les têtes de chapitre, je crois que c'est tout à fait correct. Je pourrais peut-être ajouter juste un point, le dépôt par le Premier ministre. Cette fois-là, attend, n'est-ce pas? C'est la première fois que cela arrive du projet de budget de l'année prochaine.
Alors, Mankenda Chibangu, rédacteur en chef adjoint à l'Agence congolaise de presse, votre avis par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre?
Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, sauf que, en ce qui concerne le contrôle du budget, il me semble que c'est devenu presque monnaie courante. On a condamné il y a quelque temps les dirigeants de l'Équateur, maintenant c'est le Sud Kivu. On craint que cela puisse revenir chaque fois dans pratiquement tous les exécutifs de notre pays. C'est pas normal.
On va y revenir. Albert Mafolo, vous êtes journaliste à la radio catholique Tomisa du diocèse de Kikwit. Vous intervenez à partir de la province du Bandundu. Qu'est-ce qu'il y a la une aujourd'hui dans cette province?
Très bonne nouvelle. Après l'inhumation de l'ancien gouverneur de Bandundu, nous assistons en ces jours ici à des cas de vols répétés, surtout au niveau du grand marché de Kikwit ici. On a dévalisé plusieurs boutiques et il y a une pluie qui a emporté plusieurs toitures des écoles. Il y a des centaines d'élèves qui étudient sous les mains. Donc, c'est un peu ça l'actualité dans notre milieu.
Premier thème de notre tribune de ce soir, Assemblée nationale, examen du projet de loi relatif à la réforme des forces armées de la République. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées est jugé recevable par l'Assemblée nationale. Le projet est envoyé dans la commission défense et sécurité pour examen approfondi. Ce, après le débat général et la réplique du ministre de la Défense aux préoccupations des députés mardi dernier, notamment sur la structure de forces armées, la durée et la mise en œuvre de la réforme et de cette opération. Pour Mwando Simba, ministre de la Défense, le programme est vaste, mais il y a de priorités. On l'écoute au micro de Marie-Chantal Lumba.
Cette réforme est d'une importance capitale, étant donné que c'est le fondement même de la nation et que ce sera la base de la solidité de notre défense. Donc, il s'agit là d'une loi capitale. Quand nous aurons présenté la loi de programmation, en ce moment-là, vous connaîtrez le coup. Aujourd'hui, je crois que ce que nous faisons à ce moment-ci, c'est d'abord la stabilisation de nos troupes, le rajeunissement des troupes mises à la retraite, l'amélioration des conditions sociales du soldat, puis la stabilisation même de la situation sécuritaire du pays. Et ça, c'est la première phase, et au fur et à mesure, et tout ceci sera repris donc dans la loi de programmation.
Voilà, là, c'était le ministre Mwando Simba, ministre national de la Défense. Mangenda Tshibangu, cette réforme de l'armée devrait avoir lieu depuis la transition. Elle commence actuellement. Est-ce que nous sommes en retard ou c'est normal?
Bon, je crois que c'est un peu en retard, parce que si j'ai une bonne mémoire, je pense que il y a eu un groupe de contact, c'est terminé, je crois que c'est en 2006, qui était penché sur, d'abord on avait fait un état des lieux sur notre armée. Ensuite, on avait programmé un certain nombre d'actions qu'il fallait exécuter afin d'avoir une armée nationale républicaine intégrée. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Depuis 2006 jusqu'à ce jour, on est encore à se battre, à créer des lois. Je crois que c'est un peu en retard, mais comme on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, je crois que c'est quand même bienvenu.
Benoît Cambéré, on propose souvent des lois dans notre pays, mais l'applicabilité reste un problème. Vous pensez que cette fois-ci, cette réforme sera vraiment appliquée?
On l'espère, et surtout vivement qu'elle soit appliquée. Tout à l'heure, Mangenda a parlé de la réforme qui date de 2006. Moi, j'irai plus loin. C'est depuis la conférence nationale souveraine, déjà qu'on avait déjà parlé de la réforme de l'armée. Et le dialogue intercongolais de Sun City y est revenu. C'était parmi les préalables, après toutes les rébellions qu'on a connues, après que chaque groupe armé avait un pan du territoire et avait des officiers, il était prévu qu'on ait une armée intégrée, on est passé par les brassages, on est passé par les mixages, on est passé par plusieurs mixtures pour y arriver, et à la fin de compte, c'était un échec parce que on n'est jamais arrivé à faire quelque chose. Maintenant que la loi est au niveau du Parlement, espérons que cette fois, ce sera la bonne. Et le plus tôt serait le mieux, parce que l'état dans lequel se trouve notre armée aujourd'hui, il y en a qui parlent du fait que dans notre armée aujourd'hui, on a plus d'officiers que des hommes de troupes, ce n'est pas normal. On parle des officiers qui ne sont pas formés, on parle de plusieurs tars. Pourtant, dans notre armée, on a connu des gens très très bien formés, on a connu des gens qui ont été dans des grandes écoles, n'est-ce pas? Et le pays qui est le nôtre, la grande République démocratique du Congo, devrait avoir une armée à la taille de sa dimension. Ce qui n'est pas le cas maintenant, et le plus tôt serait le mieux. Certes, cette réforme s'étale sur 10 ans, c'est tout à fait normal. Dans l'état actuel de notre armée, il faut que ça s'étale par le temps et il faut que la réforme soit en profondeur. Il ne faut pas que ça soit encore une fois une réforme cosmétique où on prend les gens à gauche, où on prend les gens à droite sans aller en profondeur, parce que notre pays a besoin d'une grande armée, une armée républicaine, une armée véritablement nationale.
À votre avis, Benoît Cambéré, qu'est-ce qu'il y a à la base du fait qu'on retrouve beaucoup plus d'officiers que des hommes de troupes dans notre armée?
C'est les groupes armés. Chaque groupe armé venait avec autant d'officiers, et puis les recrutements ne se font plus comme ça se faisait avant. Avant, il fallait passer par Kitona, n'est-ce pas, passer par les camps militaires, passer par le casernement pour entrer dans l'armée. Le fait qu'on a eu beaucoup de guerres, le fait qu'on a eu beaucoup de groupes armés, c'est qu'on arrive à cette situation où, on ne peut pas refuser que tel groupe armé ait des officiers. Malheureusement, quand il faut présenter la liste, on présente n'importe qui, et c'est pour ça que des fois on se trouve devant des officiers qui n'ont pas la formation requise et voilà.
Albert Massolo, vous intervenez à partir de la province du Bandundu. Êtes-vous aussi d'avis que cette réforme commence en retard?
Vous avez suivi, le conseiller Mangenda a reconnu à la fin qu'il vaut mieux tard que jamais, et Benoît venait d'ajouter quelque chose de très significatif, l'état actuel de notre armée. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise que c'est vraiment en retard, de peur que demain, on constate que c'était aussi tôt. Parce qu'en reconnaissant l'état actuel d'armée, on parle d'une réforme, mais nous avons plusieurs factions d'armée autour de notre pays, dans notre pays, je voudrais dire, et surtout dans la partie Est, qui continue à poser des problèmes. Moi, je pense que le préalable, c'était de maîtriser, c'était de maîtriser toute cette bande d'armée, de ramener tout le monde sur la table, de chercher à concilier les esprits des uns et des autres avant d'engager une réforme qui doit être applicable au niveau de tout le monde, autour de cette armée que nous voulons nationale, cette police que nous voulons républicaine. Bon, mais maintenant, on peut dire que c'était tard, mais j'estime que c'est tombé à point nommé, et c'est mieux qu'on évolue et qu'on voie réellement des résultats concluants. Et puis, quelque part, j'ai suivi le confrère qui s'est plaint, et vous avez posé la question de savoir la fluidité des plus d'officiers que des hommes de troupes. Alors, là, il y a un problème. Il a fallu aussi, au niveau de l'armée, des mesures impopulaires. Des mesures impopulaires. Ces mesures devaient servir que n'importe quelle faction qui arrive avec ces éléments, qu'ils acceptent un certain nombre des officiers.
Et qu'est-ce que vous entendez par mesures, Albert, s'il vous plaît?
Un rang un militaire de rang.
Albert?
Je pense que maintenant, c'est tombé à plein nom et qu'on attend que ça évolue.
Albert, qu'est-ce que vous entendez par mesures impopulaires?
Mesures impopulaires, j'entends des mesures, même si ça ne peut pas arranger quelqu'un, mais au moins qu'on arrive à décider et qu'il l'accepte comme tel dans le cadre ou dans le sens d'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire, vous êtes capitaine, vous êtes lieutenant, et on a retenu 5, 6, 7 lieutenants de votre troupe. Les autres, là, ce sont des policiers de rang ou des militaires de rang. Donc, ça, ce sont des mesures impopulaires qui n'arrangent pas ou qui ne coïncident pas avec les volontés des personnes, mais parce que ça doit concourir dans le bien-être de tous, ces mesures doivent être prises pour sauver la situation ou pour remettre les choses dans les règles.
Mangenda Chibangu, il faut réformer l'armée et pour cette réforme, on a besoin des moyens, on a besoin d'argent. D'où viendra cet argent? Est-ce que la RDC a assez de moyens pour la réforme de l'armée quand on sait déjà que les fonctionnaires ne sont pas bien payés, les médecins pas bien payés? D'où viendra l'argent pour réformer l'armée?
Écoutez, je pense que quand on a besoin de faire quelque chose, on peut toujours trouver les moyens. Je pense ici à M. Laurent Désir Kabila. M. Laurent Désir Kabila a commencé à réformer l'armée. Je pense ici à la formation qu'il avait déjà commencé à donner aux jeunes gens qui devaient s'occuper de la gestion civile. Il y avait au moins plus d'une centaine de jeunes gens qui étaient en formation, qu'on avait dans la formation avait commencé ici, on l'a poursuivi jusqu'à Tamina, et là, les choses se sont éteintes. Mais si on a la volonté de faire quelque chose, je crois qu'on peut trouver un champ. À côté de notre propre effort, nous avons également des partenaires. Je pense ici à l'Union Européenne, je pense à tous les autres pays amis comme l'Afrique du Sud qui nous ont aidés depuis un certain temps, soit pour former les éléments de la police, soit pour former les militaires. Je crois que les moyens, si on veut, je crois qu'on peut en trouver.
Et pour former, vous avez cité les pays amis qui peuvent nous venir en aide, mais pour la construction des infrastructures, par exemple, on va aller aussi demander aux pays amis?
Je crois que ce n'est pas exclu non plus. Quand je considère, par exemple, que le budget de notre pays pour cette année est de 4,9 milliards de dollars américains, et que la moitié de cet argent doit venir de l'extérieur. Pourquoi ne ferait-on pas de même? S'il faut construire des infrastructures, je crois que le problème ne se pose pas de cette manière-là. Le problème se poserait surtout en termes de volonté de réaliser quelque chose. Si les autorités veulent vraiment, réellement avoir une armée républicaine, une armée nationale intégrée, je crois qu'ils trouveront bien le moyen. Or, qu'est-ce qu'elle constate, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Kamberé, on constate que parfois il n'y a pas de volonté. Dans la mesure où j'ai appris il y a quelque temps qu'on prend un spécialiste en aéronautique, on l'envoie, un officier de l'aéronautique, on l'envoie dans l'armée de terre, où il ne pourra rien faire. On prend celui qui est de l'armée de terre, on l'envoie je ne sais où, et en ce moment-là, on constate qu'il n'y a pas de volonté. Non, mais je crois qu'il y a réellement la volonté de faire quelque chose, on y arrive.
Benoît Kambéré, vous êtes d'avis que la RDC peut recourir aux pays amis pour le financement pour cette réforme de l'armée?
Absolument. Absolument. D'abord, ce n'est pas une réforme qui doit, le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est une réforme de grande haleine. Elle est étalée sur 10 ans.
Pour 10 ans, oui.
Alors, il faut prendre, quand on veut, et là, j'insiste sur la volonté politique, quand on veut, on peut arriver à quelque chose. Il faut commencer par quelque part. Parce que dans ce pays, je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Je suis un fan de militaire, je suis parti de casernement en casernement. Il y a eu des camps militaires célèbres dans ce pays où on casernait les militaires. On peut parler de Bandungu, on peut parler de Irebu, on peut parler de camp Léopold, le camp Kokolo ici, on peut parler de camp Sayo à Bukavu, on peut parler de camp Kapalata. Mais c'est des choses qui ont existé, mais qui malheureusement sont tombées en désuétude et en décrépitude. Heureusement qu'on a commencé à réfectionner les camps militaires. J'ai été dernièrement au camp Sayo à Bukavu, je n'ai pas reconnu le camp Sayo que j'ai connu à l'époque, parce qu'au moins on a retapé les maisons. Mais il ne suffit pas de retaper, il faut en plus maintenant, vu l'effectif de l'armée qu'il y a aujourd'hui, construire d'autres casernements. Les militaires ne devraient pas rester en ville. Les militaires doivent rester dans les camps, sortir avec un bulletin pour aller en ville pour une chose bien précise. En principe, on éviterait pas mal de choses qui sont en train de se faire. Et la réforme, c'est aussi ça. Si on veut vraiment une réforme, on doit avoir les moyens. Et les moyens, quand on ne les a pas chez nous, pourquoi pas à recourir aux autres, et cela a existé. On a vu les Coréens aider l'armée, les forces armées aïroises. On a vu les Belges aider à Kota Koli. On a vu les Américains. On a vu les Chinois aider pendant un moment. Et notre pays, avec sa dimension, avec les potentialités qu'on a, beaucoup de gens devraient nous aider. Et vu la position qu'occupe la République démocratique du Congo au centre de l'Afrique et dans la charnière entre le nord et le sud, nous devions avoir une armée dissuasive et forte pour l'intérêt de tout le monde finalement. Les partenaires auront donc et ont intérêt à nous aider pour qu'on y arrive, parce qu'avec nos seuls moyens, on ne peut pas y arriver.
Et que dire de le fait que Benoît Kambéré, qui a pour mission de réformer les secteurs de la sécurité en RDC?
Ben, si on est arrivé déjà à ce plan de réforme de 10 ans, c'est grâce aussi à l'ESSEC. L'ESSEC a travaillé, l'ESSEC a des bureaux ici, a des bureaux à travers le pays, et il a travaillé pour maîtriser les effectifs. Si on doit maîtriser, si on est arrivé plus ou moins à maîtriser les effectifs, c'est entre autres grâce à l'ESSEC, et l'ESSEC ne va pas, dans cette réforme, nous abandonner, à notre sens. L'ESSEC a déjà amorcé ça, l'ESSEC devrait nous accompagner durant les 10 ans, à mon sens.
Et Albert Mafolo, vous pensez aussi que c'est une question de volonté politique si on voudrait réussir cet effort, cette réforme de l'armée congolaise?
Absolument, mais je m'inscris un peu en faux de trop compter sur les pays amis et voisins ou les étrangers, parce que en fait, ce sont ceux-là que nous prions, appelons amis aujourd'hui, que demain arrivent à être au stand le dessus et à nous mater et à faire de nous leur vache à lait. Donc il y a une question de volonté politique, donc l'État doit mobiliser d'abord ce moyen interne, donc mettre de l'ordre avec tous les services générateurs de recettes de l'État, on aura des moyens, et finalement, l'appui peut venir de l'extérieur, comme mes amis l'ont dit, et simplement pour venir un peu appuyer par rapport à ce qu'on aura. Parce que toujours, un pays qui compte sur l'extérieur est exposé, et puis en étant dépendant, nous perdons quand même, ne serait-ce l'argument ou la dignité, pourquoi pas, notre sens de réflexion ou d'opinion. Donc, à ce niveau-là, moi je pense qu'il faut un peu de volonté de la part des autorités. Mais qu'est-ce que l'ami venait de dire avec les camps qu'il venait de citer? Ça fait un peu, ça étonne qu'on arrive à cette situation-là. Qu'est-ce que coûte une boîte de peinture pour réfectionner, par exemple, les murs, disons, la couleur d'une maison? Qu'est-ce que coûte un lit, une feuille de mousse, tout ça? Mais voyez dans des camps militaires comment ils vivent. Cette réforme devait non seulement être aussi en termes de mesures à imposer aux militaires d'une certaine discipline, mais aussi une réforme des conditions de vie, une réforme salariale même, je peux dire, des sortes des militaires. Parce que s'ils arrivent à commettre plusieurs exactions, quand ils vivent dans des conditions néandriques, donc n'hésitez pas, mais qu'un militaire qui a l'arme, qui est un moyen de pression, arrive à dépasser les missions lui assignées. Donc, ces questions, elles ont un peu de volonté. L'État doit mobiliser des moyens et peut compter aux yeux des amis, mais d'abord sur le plan interne, comme ça, ça peut marcher. Une réforme accompagnée des encouragements, accompagnée de la prise en charge de l'homme, c'est une réforme qui peut réussir. Mais si ça reste seulement au niveau des principes, on pourra y revenir un jour pour dire que ce n'était que des discours.
Merci Albert Mafolo. Expulsion et sortie volontaire des Congolais vivant en Angola, c'est notre deuxième thème de ce soir. Province du Bas-Congo, l'opération de rapatriement des Angolais en situation irrégulière se poursuit à travers tous les territoires de Moanda, plus de 200 km à l'ouest de Matadi. Les officiels parlent de 82 Angolais qui sont rentrés hier jeudi chez eux. Le ministère provincial de l'Intérieur donne le chiffre de 21 000 Congolais expulsés d'Angola à ce jour. Hier jeudi, 1300 Congolais expulsés de Soyo et Cabinda ont été accueillis à Moanda. Ces refoulés ont affirmé que plus d'une centaine de femmes congolaises ont été violées par des soldats angolais et certains expulsés sont décédés en cours de route. Les détails avec Dani Kindanzita.
Ils venaient de partout, ces militaires, ils nous battaient, certains hommes sont morts noyés, des femmes mineures violées.
Ils violent les femmes, certains enfants meurent et on les enterre en cours de route. Nous avons marché à pied et ces militaires nous ont abandonnés à la frontière de Kaïndini. Ils nous ont mis sur des pirogues. Des personnes se noyaient, ils nous frappaient. Si vous nous voyez, vous serez étonnés. Nous avons beaucoup de blessures. Ils arrêtent les mamans et dès que ces femmes refusent, ils les amènent dans la forêt. Et ces militaires les violent.
Faute de cité d'accueil, une femme refoulée a indiqué que nombreuses d'entre elles résident dans des églises de la cité de Moanda dans l'attente de recevoir des choses appropriées. Notez que la structure interagence OTIA est arrivée jeudi à Matadi afin de planifier la descente dans ces différentes zones, notamment les deux axes Kiela et Moanda. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Merci Dani pour ce reportage. Benoît Kambéré, comment peut-on analyser l'ampleur que prend cette situation d'expulsion et refoulement des Congolais de l'Angola?
Il y a beaucoup à dire de cette situation. Il y a d'abord l'Angola, qui est un pays voisin, il semble que c'est même un pays ami, expulse, c'est vrai. Moi, je pense que l'Angola est un pays souverain, n'est-ce pas, qui peut prendre des mesures concernant les compatriotes congolais ou des étrangers, tout simplement, qui vivent sur son sol en situation irrégulière. Moi, je suis tout à fait d'accord avec de telles mesures, mais on ne peut pas arriver... Bon, c'est vrai, on expulse les gens, mais il y a la façon d'expulser ces gens. Ça doit faire réfléchir et les Congolais, et surtout nos dirigeants. Parce que font les Congolais en Angola? Ils fuient la situation de misère de notre pays, ils fuient le fait qu'on n'a pas de travail dans notre pays pour essayer de trouver une maigre pitance à l'extérieur et généralement dans des conditions inacceptables. Il faudrait que cela nous fasse réfléchir. C'est vrai, il y a beaucoup de Congolais à travers le monde et malheureusement en situation irrégulière. Il faudrait que nous réfléchissions là-dessus. Chaque pays a le droit d'expulser les gens qui sont en situation irrégulière dans son pays, mais il y a la manière de le faire. Cette façon de violer les femmes, cette façon de jeter les gens dans des pirogues, de jeter les gens, de les battre pour les faire partir de l'Angola, est tout simplement inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Et quand on est dans des structures, on sait ici, on a fait une grande messe à l'hôtel, au grand hôtel de Kinshasa, on a parlé de la SADC, on parle de la CIAC, on est dans des regroupements régionaux qui, à la limite, à la longue, devraient arriver à ce que les gens circulent librement dans les pays. On ne devrait pas en arriver jusqu'à des telles exactions pour chasser des irréguliers. C'est vrai, il y a des irréguliers. C'est vrai, les irréguliers, on ne peut pas les accepter. Tout comme notre pays devrait également ne pas accepter les irréguliers. C'est ce que nous déplorons aussi de notre côté parce que nous apprenons que par vengeance, même pas par signe de réciprocité, on est en train d'expulser des Angolais qui sont en règle, qui ont
Vous pensez que c'est par vengeance?
Oui, parce qu'on ne peut pas expliquer que quelqu'un qui a des papiers, et je ne dis pas que c'est de la part des autorités, mais c'est de la part de la population qui, tout simplement, veut se venger des conditions inhumaines dans lesquelles on a expulsé les compatriotes. Mais il est inadmissible qu'on puisse faire la même chose sur les Angolais qui, par exemple, sont en règle avec le pays, qui ont des visas d'établissement ou qui ont des visas de voyage, qui travaillent normalement avec nous. Moi, je suis d'accord que
que cela serve de leçon à nos autorités, nous qui sommes laxistes. Il y a des gens qui sont dans notre pays sans papier, nous on tolère ça, mais dans d'autres pays, malheureusement, ils mettent de l'ordre chez eux, mais ils ne doivent pas mettre de l'ordre en faisant des exactions sur les populations.
Mais on retrouve aussi les Congolais dans d'autres pays qui sont en situation irrégulière.
Ben oui, ce n'est pas la première fois que l'Angola expulse les Congolais. On a déjà appris que le Congo-Brazzaville en face a expulsé également des Congolais de façon irrégulière. Et malheureusement, c'est dans plusieurs pays limitrophes et même ailleurs où on trouve des Congolais dans des situations irrégulières. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on les expulse comme on expulse du bétail.
Albert Mafolo, à votre avis, est-ce qu'on peut parler de relations tendues entre la RDC et l'Angola en ce moment?
Tout à l'heure, nous avons parlé que la RDC, pour sa réforme, devait qu'on pouvait compter sur les voisins, les amis, pays amis, peut-être aussi l'Angola. Mais où est-ce que nous en sommes avec notre thème d'expulsion de nos frères de l'Angola par les RDC congolais, eux des Congolais, qui vivent en Angola par des Angolais. Donc, c'est un peu ce climat qui veut s'étendre, qui veut se dessiner. Mais moi, je me dis finalement, la grande question est de savoir pourquoi on arrive à ces jungles alors que nous avons des États, nous avons des ministres des Affaires étrangères. Nous avons même un ministre congolais des Congolais de l'étranger, par exemple. Mais pourquoi on ne peut pas se mettre sur une table et régler la question? Parmi ces enfants qui sont expulsés, voyez un peu le nombre. La RDC avance 21 000 Congolais expulsés de l'Angola. L'Angola, maintenant, parle de 82 Congolais qui sont rentrés. Des 82 Angolais qui sont rentrés expulsés par les Congolais. Donc, voilà un peu où est-ce que nous arrivons avec ces jungles-là, ou cet antagonisme qui veut se créer et qui veut briser les relations jadis fructueuse entre les deux pays. Moi, je pense que la grande question est de savoir pourquoi les deux États ne s'étaient pas vus et pourquoi on n'a pas envisagé des possibilités de faire le change de ces gens-là et des gens en situation régulière dans tel pays ou dans tel autre. Donc, ça revient aux deux pays de s'asseoir et de voir les intérêts subtils de leur organisation, de leur fraternité pour éviter qu'on arrive au pire, par exemple. Donc, vous verrez que parmi ces enfants qui sont expulsés, on parle d'ailleurs de femmes violées, des enfants qui meurent ou des hommes, mais il y a des enfants nés par exemple en Angola, mais ce sont des Angolais d'origine congolaise. Est-ce que ces enfants n'ont pas droit à vivre en Angola? Parmi ceux qui sont chassés des Angolais chassés en RDC, peut-être qu'il y a aussi des enfants congolais d'origine angolaise. Alors, est-ce que ces enfants n'ont pas droit de vivre en RDC? Et puis sous ces gens qui viennent de qui quitte l'Angola pour la RDC ou qui quitte la RDC pour l'Angola. Mais la question est de savoir qu'est-ce que ces gens sont allés faire pour être en situation irrégulière. Donc nous devons réfléchir, penser d'abord le mal à la racine, et comme ça on peut ne pas avoir cette situation, même si ça peut exister, mais l'ampleur ne sera pas ce qu'on vit aujourd'hui.
Albert, vous parlez de la rencontre entre les deux États, mais je sais qu'il y a une délégation congolaise qui est allée en Angola justement pour régler ce problème, et apparemment la situation perdure. Qu'est-ce qu'on peut se dire?
Ah, mais s'ils ne se sont pas mis d'accord, à mon entendement, moi je pense qu'il y a des choses les coudes n'ont pas marché, et puis il faudrait peut-être trouver une solution, que la RDC envisage des moyens pour retirer en toute dignité ses fils habitants l'Angola en situation irrégulière, que l'Angola aide la RDC à dénicher ces Congolais en situation irrégulière, pas en les éclaboussant, les torturant, et puis en cherchant à créer des problèmes de tout genre, les menacer par les frapper, les blesser, leur confisquer de l'argent, tout ça. Donc, la RDC devrait demander à l'Angola, s'il ne veut pas ce qu'il estime comme entente, donc de l'aider à dénicher ces Congolais en situation irrégulière et à son tour de penser, lorsqu'ils vont rentrer au pays, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment créer des situations aussi favorables dans notre environnement congolais pour que ces gens ne puissent plus quitter le pays en situation irrégulière, à vivre des conditions d'humiliation dans d'autres États, parce que l'Angola n'est pas le seul pays où il y a des Congolais. Ça, c'est un. Et puis le Congo aussi. Nous devons aider l'Angola à comprendre qu'ils sont en situation irrégulière. Venez un peu à côté de Makala, à Mongafula, descendez en bas de Rigini, là, tout ce quartier-là. Mais ce sont nos frères qui sont d'origine angolaise. qui sont là-bas. Vous avez tous ceux qui sont dans le Mongafula, pas tout le monde bien sûr, mais la plupart. Vous descendez vers Malweka, Kinshuka là-bas. Il y a des familles angolaises qui vivent en RDC. Alors, il faudrait qu'on évite qu'on arrive au pire, et puis il faut qu'on mette toutes les batteries en marche et continuer peut-être les négociations pour que d'une part ou d'une autre, ce sont des pays qui sont signataires des conventions internationales des droits de l'homme et qu'on respecte les procédures pour expulser quelqu'un en situation irrégulière dans son état.
Marien Dakibangou, vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'agence congolaise de presse. Quelle solution peut-on ou la RDC peut-elle envisager pour mettre fin à cette situation?
La solution, à mon avis, est bien simple. Tout à l'heure, les amis l'ont dit, il existe des textes. Des textes à caractère international, des textes à caractère régional. Des textes à caractère international, je pense à la Convention de Genève. Des textes à caractère régional, je pense ici aux textes mis sur pied et par les commissions mixtes Congo-Angola. Dans ces textes, il est question, entre autres, d'expulsion, mais alors il faut que les deux pays se mettent d'accord sur les méthodes d'expulser. Et si donc, il faut trouver des solutions, moi je pense que la meilleure solution, c'est d'abord de respecter les textes qu'on a signés. L'Angola a signé des textes, la RDC a signé des textes. Pour la crédibilité de deux pays, je crois qu'il faut se maintenir d'abord au texte. Et si, à leur niveau, les choses ne marchent pas, nous avons des structures régionales. Je pense ici à la SADC, je pense à la CAC. Et si à ce niveau-là, on n'arrive pas à trouver des solutions, il y a l'UA, l'Union africaine. Donc, plutôt que de chasser les gens comme de malpropres, comme on l'a fait avec des violations des droits de l'homme, avec des viols de femmes, avec des morts, je crois que ce n'est pas digne. Cela nécessite des réflexions de part et d'autre et que, à mon avis, les solutions sont là. Il s'agit tout simplement de se cramponner au texte et on pourra bien résoudre les choses.
Le dernier thème de notre débat de ce soir, c'est ce rapport de la commission de contrôle du budget 2008-2009 adopté à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu sur la mégestion par l'exécutif provincial. L'Assemblée provinciale a adopté à la majorité de 32 députés sur les 42 qui la constituent le rapport de la commission de contrôle sur l'exécution du budget 2008 et le premier semestre 2009. C'était jeudi soir à la salle de la BDGL et en présence de nombreux citoyens du Goma qui se sont mobilisés pour la circonstance. Ce rapport reproche à l'exécutif provincial du Nord Kivu plusieurs irrégularités dans la gestion des finances public, notamment une double comptabilité, ainsi que des détournements de fonds, des rétrocessions. Et du coup, selon ce rapport, le gouvernement provincial doit démissionner en bloc. Le point avec Sipa Maguru.
Au total, 65 amendements ont été apportés à ces rapports à travers les différents groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Une seule question a divisé les députés pendant plusieurs heures, à savoir la démission du gouvernement provincial. Le groupe PPRD, MSR, RCD et les indépendants ont soutenu cette démission, estimant que le gouverneur des provinces était suffisamment incriminé, alors que les démocrates chrétiens et les forces du renouveau, parti politique du gouverneur, ont soutenu le contraire. C'est tard dans la soirée, après la sortie dans la salle de certains députés opposés au rapport, que le vote a finalement eu lieu. Le rapport est adopté. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les députés Gilbert Kalinda explique.
Il y a des députés qui estiment qu'il faut voir si le gouverneur va lui-même démissionner. Un second groupe pense que un rapport d'une commission devrait être envoyé aux hautes autorités du pays. D'autres députés disent aussi qu'il leur est possible de faire une motion de déchéance ou de censure. Reste, les députés peuvent garder silence et la situation reste comme telle. Les députés peuvent agir conformément au texte. Mais toute la responsabilité, c'est maintenant les députés.
Notons que l'un des amendements stipule que la sanction judiciaire n'exclut pas des sanctions administratives. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Mangenda Kibangu Machi, est-ce qu'on peut dire que la tolérance zéro est en train de produire ses effets?
Tout à fait, parce que j'ai l'impression, une nette impression que presque partout, les gens commencent à prendre conscience qu'il faut bien faire marcher les choses. Et si aujourd'hui, les députés du Nord Kivu essayent de regarder dans la casserole de finances publiques, pour savoir où est parti l'argent qu'ils ont reçu. Et si cela retombe sur le gouverneur, je crois qu'il faut y aller jusqu'au bout. Et si le gouverneur a mis la main là-dedans, il va répondre.
Mais non, comme il est, c'est la même situation qu'a connu la province de l'Équateur, la province du Bas-Congo. Aujourd'hui, c'est la province du Nord Kivu. Ne faut-il pas finalement donner raison au rapport de la Likoko qui accusait certains gouvernements provinciaux de détournement des fonds et de gestion?
Ben, on est enclin à donner raison à cette Likoko, mais il faudrait, c'est vrai, ça bouillonne de partout. Ça bouillonne dans la province de l'Équateur, ça a commencé au Kasaï, on est au Bas-Congo, il y a le président et le questeur, je pense, ont été dégommés, et on parle même d'élections d'ici à la semaine prochaine des nouveaux animateurs pour l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Attention, les rapports ne sont pas des décisions. C'est vrai, un rapport a été établi, mais il faut également établir les responsabilités. Il faudrait pas que il y a les mécanismes pour arriver à... Maintenant, on peut, par exemple, actionner une motion de défiance. Hein, par exemple, mais pas à partir du rapport, il faudrait que les incriminés aussi aient les moyens de produire leur défense, n'est-ce pas? Mais il faudrait pas dire que quelque part ça bouillonne partout, et même que on devrait également voir du côté du gouvernement central. J'ai comme l'impression qu'on se tait un peu de ce côté-là. Il faudrait également, parce que à l'occasion, par exemple, du dépôt de ce budget, il faudrait qu'on nous dise ce qu'on a fait du budget de l'année passée. Mais malheureusement, on n'en parle pas. Il y a d'autres préoccupations au niveau national. Mais ce serait bien, avant de voter un nouveau budget, qu'on regarde ce qu'on a fait du budget passé. Où il y a eu dépassement. Pourquoi on n'est pas arrivé à ceci ou à cela? Est-ce qu'il y a eu détournement de ceci ou de cela? Ce serait bien que ça se fasse à tous les niveaux, pas seulement au niveau des provinces où il y a certes beaucoup plus d'agitation politicienne qu'autre chose, n'est-ce pas? Mais il faudrait qu'on établisse les responsabilités et que cette fois-là, on frappe et on frappe fort, à mon sens.
Albert Mafolo, comment se présentent les relations dans la province du Bandundu entre l'exécutif provincial et le gouvernement provincial? Plutôt le gouvernement provincial et l'assemblée provinciale, j'allais dire.
Il y a deux semaines, je pense, le gouverneur des provinces a présenté son budget 2010 à l'assemblée provinciale, mais cela avait précédé à une réponse à une question orale lui adressée par un député sur le cantonnage manuel qu'il a organisé, alors que la province avait réussi des moyens, c'est-à-dire le tracteur pour faire ce travail. Il a dit que c'était une approche, par exemple, participative avec la population. Mais j'ai dit, c'est quand même de bonnes relations, mais ces bonnes relations, nous ne savons pas pourquoi elles sont entretenues comme ça, comme bonnes relations. Le secret, il n'y a que l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial qui le maîtrisent bien. Mais à ce niveau, moi, je voudrais dire quelque chose sur la question de la démission ou pas de la situation qui se passe au Nord Kivu. Nous ne devons pas limité à cela. Vous avez parlé, le chef de l'État a dit de la tolérance zéro. Moi, je pense que depuis l'indépendance du pays, on est allé de pardon en pardon, et aujourd'hui, il n'y a que deux mots. Soit la prison, ou le pardon encore. Mais comme le pardon ne paye pas, je pense qu'on ne doit pas toujours protéger les gens qui ont détourné, les gens qui, si réellement ils ont détourné ou détournement y est, alors ces gens-là, ils ont leur place. La tolérance zéro demande que ces gens soient envoyés en prison. Nous voulons quand même voir un député qui a été, par exemple, membre d'une commission d'enquête, qui est allé toucher des corruptions, envoyé en prison. Nous voulons voir un ministre qui a reçu de l'argent pour l'intérêt de la communauté ou des travaux en rapport avec son ministère des missions lui assigné. Alors, aller en prison parce qu'il ne l'a pas fait. Vous parlez de double comptabilité ou de détournement de la rétrocession. Posez la question. Si le cours des événements ne nous aide pas à tirer une leçon, nous allons tourner à rond. Je pense qu'il est temps qu'on puisse diligenter cette enquête au niveau de toute la République. Ça, par exemple, pour qu'on ne soit pas tout le temps surpris avec des rapports de fois qui sont aussi instrumentalisés d'une part ou quelque part. Donc, je pense que la solution, c'est de voir si réellement ces gens, il y a des tournements, c'est vrai, s'ils peuvent démissionner, ça c'est une sanction administrative, mais ils doivent aller en prison parce qu'il y a une place, ils ne sont pas en mesure de restituer. Qu'on les mette en prison, ça servirait de leçon Alors, pour le reste des questions de rétrocession, vous voyez dans des provinces, moi je parle de notre province de Bandundu et je suis dans la ville de Kikuit, voyons ce qui se passe un peu dans les communes, dans les, la, à la mairie, partout dans des territoires des districts. Est-ce qu'avec tout ce qu'ils reçoivent, ils font réellement les travaux? Est-ce que ces frais de rétrocession sont accompagnés d'un plan de trésorerie déjà examiné par l'Assemblée provinciale ou l'exécutif provincial? Je doute qu'ils reçoivent de l'argent et à partir de leur bureau, ils se donnent des salaires et puis ils ont des sous-contrats qu'ils payent et même on leur prime et par la suite, ils n'ont que 10% ou 5% de ces frais à engager dans les petits travaux et le fonctionnement du bureau. Et demain, vous viendrez poser la question, le contrôle après une année, deux ans, trois ans. Mais ça apporte à quoi? À dire aux gens qu'il faut démissionner, les remplacer parfois aussi par des stagiaires politiques qui vont poser les mêmes actes. Nous pensons que la solution est d'attaquer le mal à la racine. Il est temps, parce que ces événements se sont produits dans plusieurs provinces, qu'on arrive à organiser une commission d'enquête à tous les niveaux et qu'on mette de l'ordre.
Et là, quand Albert parle d'attaquer le mal par sa racine, c'est la racine, elle est où?
La racine, c'est l'euro, tout simplement.
Et voilà, vous parlez du gouvernement provincial ou...
National, je parle au niveau national. Parce que si l'exemple venait d'en haut, n'est-ce pas? Si l'exemple venait d'en haut, partout, c'est vrai, il y en a malheureusement qui se cherchent des petites bêtes, le règlement de compte, mais on devrait frapper fort par le haut, montrer l'exemple. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est fait. Quand on voit que il y a une commission qui est montée au Parlement, on sait tout ce qu'on fait des rapports des commissions au Parlement. Malheureusement, c'est des familles politiques pour des raisons inavouées qui sont en train de couvrir les leurs. J'espère que cette fois-là, si ça arrive, on va lâcher ceux qui vraiment sont en train de se taper de l'argent sur le dos de la population. Le social, tout le monde sait quelle est la situation sociale du pays aujourd'hui. On devrait commencer par le haut et l'exemple vient d'en haut, comme on dit.
Mais là, dans la province du Nord, qui vous manque d'Akibangu, c'est l'AMP. Julien Paloukou, il fait partie de l'AMP. C'est l'AMP qui le lâche.
Si on peut dire les choses ainsi, si l'AMP pouvait lâcher le sien, ce serait un très bel exemple. Pourquoi? Parce que le parti qui est au pouvoir, elle lâche. Non seulement, je n'aimerais pas que ça s'arrête là. Je souhaiterais que si Paloukou est non seulement lâché, mais qu'on aille jusqu'à vérifier si réellement il a détourné. Et s'il a détourné, qu'on le mette en prison. Ça servirait de leçon. On dira, tiens, l'AMP qui est au pouvoir, non seulement a mis dehors son homme qui était président, mais non seulement ça, mais il l'a mis en prison. Et nous autres qui sommes des autres partis, qu'est-ce qu'on fera de nous? Peut-être que les autres auront peur. Et c'est ça le début de la sagesse.
C'est la fin de cette émission. Merci aux confrères qui ont accepté de participer à cette tribune. Merci à Alain Hiron qui était à la réalisation. Samuel Kachak qui vous a présenté la revue de presse. Et Edi Marcis qui était à la technique. Au micro, Kélim Kouté, nous vous souhaitons de passer un agréable week-end en compagnie de programmes de Radio Kati. Okay.
Cathy, oh Cathy.